c'est pas grave.
On peut pas aller plus vite que le train, bonjour.
Voilà. On va lui laisser juste reprendre son souffle tout pendant 5 minutes. Hein.
Tout va bien, je connaissais pas Mola, je la connais maintenant par l'arrière-boutique.
Ah, voilà.
Voilà, donc j'ai eu droit à l'envers du décor, c'était très bien.
Eh ben, c'est formidable.
Voilà.
Donc Raphaël, on était en train de dire bien évidemment beaucoup de bien de vous, hein, et donc beaucoup
vous
de mal,
tort.
Bien évidemment.
D'accord.
Donc on a présenté le DVD, la séquence du DVD qui s'intitule « Enseigner ». Je pense que c'est une bonne manière de vous demander de préciser votre conception de la philosophie pédagogique, votre désir de réveiller l'existence, votre désir de maïotiser les personnes à qui vous parlez, et votre souci de vous adresser au plus grand nombre de personnes possible dans une époque comme la nôtre, qui est une époque du multimédia. On a bien vu que vous étiez fasciné par Socrate. Vous dites que Socrate est magnifique. Je rappelais que Socrate était plutôt un Silène qui était très très laid, mais qu'il était magnifiquement beau à l'intérieur. Donc comment un philosophe comme vous, qui ressemble en partie à Socrate et qui en même temps est très différent au niveau de l'apparence, on parlait de la belle image, comment un philosophe comme vous va-t-il utiliser les médias, donc la radio, on a parlé de France Culture, la télévision, on a parlé des émissions d'Arte, puis ce coffret qui est présenté aujourd'hui avec ses 6 DVD, puis ses séquences et puis ses bonus, comment un philosophe comme vous a-t-il le souci aujourd'hui d'utiliser ces médias pour faire passer une réflexion philosophique?
Permettez que j'enlève ma veste.
Oh oui, bien sûr.
Merci. Écoutez, d'abord, je veux juste vous dire le bonheur d'être ici, en fait. C'est un bonheur bref, mais véritable. Ça fait des années que j'avais envie de venir dans cette librairie. Et je suis heureux que la parution de ce DVD m'en donne l'occasion. Ça, c'est le premier point. C'est presque le plus important. Pour ce qui est des médias, je peux vous parler des deux supports, en vérité, sur lesquels j'ai travaillé plus spécifiquement, qui sont la télévision et la radio, puisqu'il s'agit de promouvoir un coffret d'émissions qui passent à la télévision. Commençons par là. Les règles de l'émission, le principe de l'émission de télé, les règles sont nées du sentiment qu'il était impossible de faire de la philosophie à la télévision. Voilà, c'est-à-dire que c'est pour démontrer aux producteurs et aux directeurs, au président d'Arte, qu'il était impossible de faire de la philosophie à la télévision, que j'ai exposé les règles. La règle du plan séquence, la règle des invités qu'on recevait selon leurs compétences et non pas leur notoriété, et la règle donc du plan séquence, des invités et également la possibilité d'être totalement débarrassé, détaché de l'actualité. Ces trois règles, ces trois principes, ces trois axiomes me semblaient incompatibles avec l'exercice de la télévision, tout simplement avec la télévision, avec l'idée que je m'en faisais. Et je dois quand même rendre grâce à Arte, pour le coup, et d'abord à mon producteur et à Arte, d'avoir eu, tout simplement, d'avoir trouvé tout à fait possible de concevoir l'émission sur ces bases-là. Donc l'émission est née du sentiment qu'on ne pouvait pas faire de philo à la télé, ça c'est le point de départ, pour des raisons très très simples à mon sens, qui sont... D'abord, avant la soumission de la télévision à l'actualité éditoriale et avant la loi du marché, c'est-à-dire la soumission de la télévision aux règles de l'audience ou aux anti-règles de l'audience, le premier obstacle, c'est que quand on fait de la télévision, on parle aux yeux. Et que le chemin est plus long, si vous voulez, quand on parle aux yeux, et qu'il me semble plus facile de parler aux oreilles. Et que l'image a une fonction hypnotique telle qu'elle fait que, tout simplement, quand on regarde quelqu'un, on ne l'écoute pas. Ce qu'on voit de lui se dépose, se superpose à ce qu'on entend, ou ce qu'il peut avoir à dire. Mais de façon générale, il me semble que la télévision est un outil formidable et mal employé. Mal employé tout simplement parce qu'on a oublié que c'était un outil. Ça n'est qu'un outil, c'est le médiateur de quelque chose, ça permet de faire passer quelque chose. Et il faut se souvenir que ça n'est qu'un outil, la télévision n'est pas une fin en soi. Il me semble que si l'émission fonctionne, si l'émission demeure en tout cas, c'est aussi parce que, une fois pour toutes, elle a été construite et pensée par des gens qui, soit parce qu'ils sont étrangers à la télévision, soit parce qu'ils n'ont pas la télévision chez eux, soit parce qu'ils ne la regardent pas, trouvent assez naturel de se servir de la télévision comme d'un outil, c'est-à-dire que, et de surmonter les pesanteurs qui semblent insurmontables à des gens qui sont pris dans la mécanique télévisuelle. Donc l'émission est née comme ça. Cela dit, je dois dire qu'en ce qui me concerne, je suis davantage
un homme de radio et que la radio me semble être le média socratique par excellence. Mauvaise grâce à le dire alors que c'est ça que je propose, mais le fait est que parler à la radio, c'est pour toutes les raisons que je viens de vous donner et qui concernent la télévision, pour les raisons inverses, parler à la radio, c'est s'adresser directement aux oreilles, c'est-à-dire au cœur des gens. On n'a même pas besoin de passer par le filtre du cerveau. On peut s'adresser directement au cœur. C'est-à-dire transmettre non pas un savoir, non pas une connaissance objective, mais transmettre un désir, éveiller une curiosité. Et la marge de manœuvre dont on dispose avec des sons est incomparablement supérieure. Il n'y a pas cet inconvénient de l'image qui sature l'imagination, précisément. Et qui, d'une certaine manière, fonctionne comme un handicap, en tout cas comme un organe obstacle. C'est la fameuse théorie des... Toujours un moment où la technique se venge, ça m'arrive en cours aussi, ça. Madame, le mien va sonner dans 2 secondes. Un jour, il y avait une élève comme ça qui était en classe. Pardon, je ne dis pas ça pour vous, mais je faisais cours et il y a une élève dont le téléphone sonne pendant les cours. Et vous savez ce qu'elle a fait ? Elle a répondu, en fait. Et alors, non seulement elle a répondu, puis elle a fait « Allô, allô, attends, mais à haute et intelligible voix, hein. Déjà dans le train c'est pénible, mais alors en cours, si vous voulez. Allô, allô, attends, ne quitte pas. » Et alors, je faisais cours sur la naissance de la tragédie, et je vois mon élève là, qui se lève, elle était au fond de la salle, elle se lève, elle traverse toute la salle, tranquillement, elle ouvre la porte, elle sort, et elle discute dans le couloir, bien fort en plus. J'étais là à essayer de dire en quoi Nietzsche était encore hegelien dans son premier texte. Et j'avais mon élève qui disait... Et puis elle re-rentre dans la salle, mais allez, 4 minutes 30 après, comme ça. Et je fais ce jour-là, c'est la seule fois de ma vie que je fais ce geste terrible, etc. Je lui dis, écoutez, non, vraiment, prenez vos affaires et sortez. Je la vire. Scandale, mais comment, mais quoi, mais de quel droit, mais qu'est-ce que j'ai fait, mais je comprends pas, mais si, etc. Je dis, écoutez... Vous comprenez pas, c'est pas grave, je vais même pas me justifier, prenez vos affaires et partez. Elle prend ses affaires, elle part, elle claque la porte, indignée de ces méthodes fascistes. Et au moment, à la seconde où elle claque la porte, mon portable sonne. Et depuis ce jour-là, je ne juge personne, vous voyez, donc c'est téléphoner. Mais donc plus sérieusement, c'est un exercice difficile de faire de la philosophie, d'essayer de rester professeur en fait quand on est pris par cette mécanique-là. C'est-à-dire il faut se rendre aussi hermétique à un certain nombre de séductions, de sirènes qui accompagnent ça et qui affadissent le propos. Se souvenir vraiment que la radio comme la télévision sont des moyens. Alors, cela dit, je crois qu'on peut, il existe une marge de manœuvre à l'intérieur d'un espace médiatique. Je serais plus réservé sur Internet, qui me semble être davantage propice au fait de brandir son expérience comme une norme, ce qui est le contraire de la philosophie, au fond. Internet, c'est le lieu où les gens disent... cette espèce de grand café philo géant où les gens disent « Moi qui ai vécu ça, je peux vous dire que... » Or, c'est exactement le contraire de la philosophie. C'est-à-dire, c'est le moment où la philosophie est un exercice d'humilité où l'on essaie de ne pas prendre son expérience pour une norme ni ses désirs pour des réalités, mais la réalité pour son désir et par conséquent d'inverser les termes. Donc je serais plus réservé sur Internet. Et en revanche, il faut saluer, et je terminerai ce long préambule comme ça, je suis content de le faire, il faut saluer l'initiative de Philosophie Magazine qui fonctionne, dont j'attire votre attention sur le fait que c'est un magazine qui marche sur fonds propres. C'est-à-dire qu'ils jouent leur vie, pour le dire très simplement, à chaque numéro. Et ils jouent leur vie en proposant des unes, certes ancrées sur l'actualité. L'actualité n'est pas non plus l'ennemi, c'est la soumission à l'actualité qui est l'ennemi. Mais en prenant des risques à chaque fois et en ne cédant jamais sur le contenu de la nature, enfin de ce qu'il y a à transmettre. C'est vraiment ce magazine ne prend pas ses lecteurs pour des imbéciles. Ce magazine prend ses lecteurs pour des gens extrêmement intelligents, à tous les égards du monde, tous les égards qu'on peut avoir pour un lectorat anonyme, invisible. La réussite d'un tel magazine laisse entendre qu'on peut gagner des parts de marché en visant le haut et non pas le bas. Voilà. Et donc, je suis content de les saluer ici. Mais je n'ai pas du tout répondu à votre question, que j'ai oubliée d'ailleurs. Mais enfin, on peut discuter, j'imagine. Donc,
oui, tout à fait. De toute façon, il y a la seconde qui suivait, qui consiste à...
À enseigner.
Enseigner par l'image. C'est-à-dire que dans vos séquences, on l'a vu tout à l'heure, hein, on voit que vous conversez en cheminant. Et je crois que c'est important dans d'autres séquences, vous parlez avec... Avec Carole Diamant, mais vous parlez avec Marion Richesse dans une autre séquence, vous parlez du cheminement. Je crois que c'est important que les philosophes comme Socrate, hein, que vous évoquez, quelqu'un qui cheminait, les péripatéticiens, bien évidemment, avec Aristote. Et je crois que vous restaurez ce que l'image permet, que peut-être que le son ne permet pas à la radio, c'est ce cheminement de la pensée qui passe par cette métaphore qui est très visible dans les ateliers, dans les cafés, dans les rues même, hein, où vous amenez votre interlocuteur et par le fait même les spectateurs.
Dans les cafés, hein, pas sur les trottoirs, c'est Sartre qui disait ça. Hein. Mais vous avez raison. L'idée du cheminement me vient assez peu des Grecs, puisqu'au fond, je n'ai pas... Enfin, j'ai lu deux, trois choses sur les Grecs, mais au départ, l'origine, l'intuition du cheminement m'est venue de Nietzsche, d'un passage du Crépuscule des idoles, où Nietzsche répond à Flaubert. Flaubert dit « On écrit bien qu'assis ». Et Nietzsche lui dit « Je te tiens cul de plomb. Les bonnes idées sont celles qui viennent en marchant. » Et il y a derrière ça la représentation d'une philosophie s'appuie délibérément, résolument sur un seul meuble, c'est-à-dire un anti-cartésianisme de principe, où il ne s'agit pas de cheminer de vérité en vérité, mais d'aller de doute en doute, et de considérer que dans le meilleur des cas, nous marchons sur des pilotis. À cet égard, l'apprenti nietzschéen que je suis était très sensible à cette initiative, et puis j'étais sensible à cette phrase parce que tout simplement le professeur que je suis n'a jamais fait cours autrement qu'en marchant, autrement qu'en déambulant. C'est d'ailleurs là j'ai du mal. Les idées, même bonnes ou mauvaises, viennent en marchant. Ça peut donner un peu le tournis d'ailleurs dans l'émission. Hein. Je ne sais pas si on y arrive bien, parce qu'on n'a qu'une seule caméra, une seule prise, et on marche tout le temps. Il arrive que le caméraman se casse la gueule et il faut continuer. Dans une émission qui n'est pas encore passée, une émission sur la confiance, il n'y a quand même pas de hasard, Michela Marzano explique, on est à la toute fin de l'émission, il reste 2 minutes, et elle explique que la confiance repose sur le doute. S'il n'y a pas de doute, il n'y a pas de confiance. Et que donc, il faut n'être certain de pas... Enfin, il faut surtout avoir des doutes. Moins on a de certitude, plus on a la possibilité de faire confiance, justement. Il faut abjurer la certitude pour rentrer dans le régime paradoxal de la confiance. Bon, c'était pas idiot, c'était intéressant. Et elle dit, oui, mais le problème, c'est que la vie, évidemment, nous expose à des tas d'aléas. Et au moment où elle dit ça, le caméraman qui nous suivait dans la rue prend une portière. Et donc, la caméra vole, et on a continué. On a continué à marcher. Et à ce moment, elle a commenté le fait que le cadreur avait pris une portière. On a dû expliquer, d'ailleurs, à la fin, dans le générique, qu'aucun cadreur n'avait été maltraité pendant le tournage. Mais donc, il y a plusieurs raisons au fait de marcher. Il y a, bon, la phrase de Nietzsche. Il y a le fait que, effectivement, les idées viennent en marchant. Qu'on pense mieux, c'est-à-dire qu'on pense contre soi, on s'endort moins sur ce qu'on pense quand on marche, quand on est tenu de marcher. Il y a la nature de dialogue, la possibilité d'un dialogue, par le fait même de marcher, d'un dialogue qui n'est pas une juxtaposition d'opinions, mais qui voudrait être un objet commun. On m'a souvent reproché d'être assez peu en désaccord avec mes invités pendant les émissions. Alors, je suis souvent en désaccord avec mes invités pendant les émissions, mais je ne suis pas là pour ça. Sauf s'il y a des vertus pédagogiques au fait d'affirmer un désaccord, de montrer un désaccord. Si le fait de faire une objection à mon invité permet à l'invité de préciser son propos, au téléspectateur de comprendre quelque chose qu'il n'aurait pas compris, mais qu'il comprend en comprenant l'objection qu'on lui porte, alors oui. Mais sinon, on est dans la construction d'un objet commun. Il s'agit de construire un objet commun. Il s'agit non pas de juxtaposer les opinions, ni de faire concours d'éloquence. Il s'agit de composer à deux un objet commun dont on ne sait pas ce qu'il est avant de commencer l'émission. La seule chose qu'on connaisse, c'est la première question. On connaît la première question et le conducteur en image. C'est-à-dire qu'on a l'idée des images. Et les images, on se voit quelques semaines avant, mon invité connaît les images, et puis c'est tout. Et la première question, et je n'en sais pas plus, et il n'en sait pas plus. Moi, j'ai une idée des textes que je vais lire devant les images, ça c'est vrai. Donc j'ai toujours le recours possible à un texte, la règle veut qu'il y ait toujours un texte qui soit lu, un texte classique lu pendant les émissions. Mais c'est la seule chose. Pour le reste, on a besoin de marcher pour être justement dans l'improvisation. Et pour que l'improvisation ne soit pas n'importe quoi. L'improvisation, c'est pas n'importe quoi. On peut improviser parce qu'on a confiance, justement. On a confiance dans le problème. On a confiance dans le fait que le problème est infini. Quel que soit le problème, vous pouvez le dérouler à l'infini. On peut passer une vie à travailler sur chacun des problèmes qu'on pose là, qui sont posés, dont nous ne sommes que les interprètes. Donc il s'agit de dérouler un problème, de faire confiance à l'infinité d'un problème. Ça permet d'improviser. Improviser, c'est épouser la nécessité qui nous porte à discuter, et à discuter de telle manière, et à répondre de telle manière à la question qu'on pose. C'est éprouver en soi cette nécessité, et la marche permet ça. Permet ça, plus que le face-à-face statique. Je mets de côté le fait que le dispositif scénique, le plateau, etc., dans des émissions de face-à-face, avec chant contre chant, permet le montage. Or, je ne veux pas de montage. Non pas parce que je suis hostile au montage, mais tout simplement parce que, vous comprenez qu'on ne ferait pas de philosophie si on pensait dire la vérité. On n'est pas là pour dire la vérité, on ne la connaît pas. On ne la détient pas, c'est intéressant d'ailleurs de détenir la vérité. On ne la connaît pas, on n'est pas là pour ça. En revanche, on peut être sincère, à défaut d'être véridique. Et la façon qu'on a trouvé d'être sincère, c'est de montrer aux téléspectateurs, c'est de faire en sorte que les téléspectateurs voient ce que nous vivons. Donc, dans chacune de ces émissions, quand l'émission commence, c'est la première prise, c'est la seule. Ça commence, et quand je dis les premiers mots de l'émission, quand on parle, soit je pars avec l'invité, soit je commence seul, etc., et ben on ne s'arrêtera pas jusqu'à la fin. Voilà. Et vous verrez, si vous le regardez, vous verrez ce que nous avons vécu, exactement ce que nous avons vécu. Alors, il y a beaucoup de travail de réalisation derrière. D'abord dans la disposition du décor, puis dans la façon de travailler les images, de les bantitrer, etc., etc. Mais le travail comme tel, l'émission comme telle, elle est exactement ce que vous voyez est exactement ce que nous vivons. Donc c'est une façon d'être véridique. Et puis il y a un point plus fondamental qui est, à mon sens, ça pour le coup, c'est qu'est-ce que vous voulez ? J'ai du mal à enfin, on peut faire un peu de philo quand même. J'ai du mal à... On va essayer. Je suis... je vais vous faire un aveu. Je suis un immanentiste. C'est-à-dire que je considère, au fond, qu'on ne peut pas exister et être au-delà à la fois. Pas possible. On ne peut pas exister et être au-delà. On ne peut pas jouer sur les deux tableaux de l'existence, si vous voulez. On ne peut pas appartenir à un registre. Il y a ce qui existe, il y a ce qui n'existe pas. Ce qui existe, existe, ce qui n'existe pas, n'existe pas. C'est l'équation la plus simple qui soit, et c'est la plus indigeste pourtant. Nous passons notre vie à fuir ce qui existe pour adorer ce qui n'existe pas, et réciproquement. Non, d'ailleurs, pas réciproquement. J'ai tendance à penser, peut-être à croire d'ailleurs, peut-être que c'est une croyance, mais j'ai tendance à penser en tout cas que le monde est tout entier, tout ce qu'il peut être, et que c'est un être unique et sans miroir. Et l'unicité des choses nous expose à leur singularité, qu'il faut entendre comme leur étrangeté et comme leur unicité, justement, le fait qu'elles sont uniques et le fait qu'elles sont étranges. Elles sont singulières. Et à cet égard, le fait d'épouser une trajectoire, le fait de suivre un chemin qui n'est que celui-là, qui ne peut être que celui-là, puisque c'est celui-là qu'il est, et qui, une fois qu'il a été parcouru, de construire un édifice, d'improviser un édifice, qui, une fois qu'il a été construit, et celui-là, ne peut pas en être un autre, il y a là-dedans quelque chose d'irréversible qui me convient. Voilà. Il y a quelque chose d'irréversible là-dedans. Il y a, il y a quelque chose de on est à la fois, quand on fait l'émission, je suis en situation d'être le contemporain d'un édifice qui se construit. Édifice est un bien grand mot pour désigner la discussion qu'on a, mais petite cahute qu'on construit à deux, cahute conceptuelle, et puis après coup, une fois que l'émission a lieu, ben voilà, c'est ça. C'est ça et ça n'est pas autre chose. Et ce qui a été n'a pas pu ne pas être. Et c'est ainsi. Et on ne peut pas revenir dessus. On ne peut pas travailler le passé. On ne peut pas trafiquer les choses. L'émission n'est que ce qu'elle est, si vous voulez. Le fait de la faire en marchant fait d'elle la matière première qu'elle compose une fois qu'on l'a tournée et qu'il s'agit ensuite de la monter, mais de la réaliser, au fond. La matière première qu'elle compose est en elle-même immuable. J'aime ça. J'aime ça. J'aime ça parce que c'est vraiment... c'est vraiment une façon de dire que le plus important a déjà commencé. C'est pour ça que bien des émissions commencent où nous marchons déjà avec l'invité. Non pas seulement, et se terminent alors qu'on continue à marcher. Alors, continuer à marcher une fois que l'émission se termine, c'est évident, c'est une façon de dire on n'a pas fini de discuter, ces sujets-là sont infinis, etc. Commencer en marchant déjà est une façon de dire que contrairement à ce qu'on pense, il n'y a pas de table rase et que le plus important a déjà commencé. Et qu'au fond, le fait de vivre précède les raisons qu'on lui donne. Et que le fait de discuter est postérieur au fait de vivre. Nous avons commencé. On a déjà commencé. Vous avez déjà commencé. Nous avons tous déjà commencé. Tout a déjà commencé. Il n'y a pas de recommencement. C'est un truc d'insomniaque, ça. Quand vous êtes insomniaque, vous ne versez pas dans l'illusion que l'aube est un commencement. Vous n'avez pas l'illusion que l'aube est un commencement. Vous n'avez pas le rêve de la table rase. Parce que, tout simplement, vous voyez le passage insensible de la nuit à la lumière, ce changement d'état miraculeux. Vous l'observez, vous y assistez. Vous savez que ça n'est pas un commencement, mais une continuation. Et l'émission s'inscrit dans cette démarche. Voilà. Donc, autant de raisons confusément exposées pour lesquelles nous parlons en marchant, ou nous marchons en parlant. Ce qui n'est pas le cas maintenant.
Et vous ne marchez pas de la même manière. C'est-à-dire que tout à l'heure, on a vu un épisode où on voyait que vous montiez. Oui. Avec d'autres, vous déambulez, vous tombez comme par hasard, quand vous parlez de la technique, sur un lieu avec une usine désaffectée ou des objets désaffectés.
Alors, l'usine désaffectée, c'est le lieu de tournage. Hein.
Voilà.
C'est la cartonnerie, c'est un endroit génial. C'est un endroit très intéressant parce que c'est le lieu de tournage, c'est rue Saint-Maur dans le 11e. On a tourné toutes les émissions, hein, jusqu'on est à plus de 100 là maintenant. Toutes les émissions ont été tournées là-bas. Et c'est un lieu qu'on parcourt dans tous les sens et qui a cette vertu d'être un peu nouveau quand même à chaque fois, c'est-à-dire de ne pas fatiguer l'œil, paraît-il. Moi, je ne vois pas les émissions une fois qu'elles sont complètement montées. Je regarde les rushs uniquement. Donc je suis mauvais juge, mais un téléspectateur honnête me dit bon voilà, non c'est pas gênant. Et alors ce qui est formidable dans cette ancienne usine, dans cette ancienne manufacture, ça s'appelle la cartonnerie, c'est qu'il y a des machines-outils qui remontent à l'époque où on fabriquait effectivement des cartons dans cette usine, enfin dans cet endroit. Et ce sont des machines qui ne servent plus à rien, mais qui sont restées là, qu'on a laissées. Et donc ce sont des machines amnésiques. Alors évidemment, dans une émission sur la technique, c'est du pain béni pour nous. On a des machines amnésiques, donc on est là, on dit, voilà, une technique dépouillée de toute utilité. Bon. Mais surtout, ça renseigne sur le rapport qu'on peut avoir avec un objet, le rapport qu'on peut avoir à un objet quand il est dépouillé de son utilité. C'est un peu des natures mortes, si vous voulez. Vous n'allez pas manger la pintade qui est représentée sur le cadre que vous avez sous les yeux. Elle n'est pas là pour ça. Vous n'allez pas passer le balai avec le cadre du tableau. Donc, le tableau ne sert à rien. Non seulement il sert à rien, mais il dépouille de toute utilité les objets qu'il représente. Et là, on a, comme autant de natures mortes, ces machines qui ont oublié leur fonction. Et qui, du coup, nous intéressent pour ce qu'elles sont, et non pas pour ce à quoi elles servent. Or, c'est une des façons de s'étonner. C'est une des façons de s'étonner. L'une des façons de s'étonner, c'est de, dépouillant les objets de leur utilité, de retrouver les objets séparément du besoin qu'on en a. S'intéresser au monde séparément du besoin qu'on en a. Encore une fois, ne pas prendre ses désirs pour des réalités. Et s'intéresser à l'étrangeté, à la bizarrerie de ces machines. C'est une voie royale vers l'étonnement. Donc ces machines sont vraiment de bons compagnons de tournage. Parce qu'elles elles indiquent implicitement dans leur silence de machines inutiles, de machines-outils inutiles, elles indiquent ce qu'il advient d'un objet et à quel point un objet peut être intéressant quand il cesse d'être utile. Et à quel point le monde est intéressant quand on le regarde séparément du besoin qu'on peut en avoir. À quel point les choses sont intéressantes quand on ne s'intéresse pas à elles dans la mesure de l'intérêt qu'elles ont pour nous. Donc ce sont des bons compagnons de tournage. Et alors le lieu, il y a un endroit, il y a une mezzanine où on monte régulièrement. J'attends le moment où le cadreur se cassera la gueule dans l'escalier. Ça n'est pas encore arrivé. On prend les paris avant chaque émission. Sachez-le. Hein. Et puis, il nous arrive de sortir. Et d'ailleurs, c'est le seul moment, je peux vous livrer un secret de fabrication, où je sais que l'image est travaillée, non pas raccourcie ou découpée. Ça, c'est impossible. Ça se verrait tout de suite. Mais zoomée. Parce que, quand on sort, une fois sur deux... Il y a soit quelqu'un qui veut absolument participer à la discussion, d'urgence, là, il a absolument quelque chose à dire tout de suite, là, maintenant, j'ai envie de lui dire dans 5 minutes, mais là, donc, dans ces cas-là, il faut que, moi, ça rend antipathique, parce que je ne peux pas répondre, puisque je suis pris dans cette conversation, et l'image est à ce moment-là, il rapproche l'image, enfin, c'est une technique qui permet de zoomer sur une image mobile, soit on me fait des oreilles d'âne, ou des trucs comme ça, etc., donc là aussi, en général, mon réalisateur, à moins que... Il est décidé de me faire une crasse. Zoom sur l'image. Hein. Voilà. Et qu'est-ce que je peux vous dire encore sur cette émission?
Sur l'image, on pourrait rebondir sur l'image parce que, en tant qu'esthéticien, moi j'étais très sensible au fait que vous confrontiez les philosophes qui sont dans les pensées abstraites et les concepts à des images très concrètes. Ouais. On l'a vu avec la séquence sur Enseigner, mais on le voit très nettement dans beaucoup d'autres. On va prendre un exemple, celui sur le pouvoir avec Céline Spector. Là, vous nous présentez Sarkozy, Céline Spector. Vous nous présentez Sarkozy en train de monter en short le perron d'Elysée, suivi par Fidel Castro avec un vieux survêtement lui-même en très mauvais état. Ensuite, il y a Sam Trigo, le portrait de Louis XIV. Et ensuite, un certain nombre d'autres images, notamment celle de Mitterrand, avec cette affiche faite par Séguéla, hein, si mes souvenirs sont bons.
Ah, on a eu ça, on s'est servi de ça, c'est
voilà.
Vrai.
Donc, vous confrontez, alors j'imagine que ça c'est préparé, je ne sais pas si c'est vous qui les choisissez ou bien...
Oui, non, là c'est moi, je peux vous raconter la façon dont les images sont choisies. Le conducteur en images de l'émission m'est venu donc avec Céline Spector qui enseignait à Bordeaux, qui est partie au Japon, qui va revenir, qui est un excellent professeur. Qui est la meilleure connaisseur de Montesquieu que je connaisse moi-même. Avec Céline, le conducteur en image m'est venu d'un texte de Clément Rosset qui s'appelle « Remarques sur le pouvoir dans le philosophe et les sortilèges ». Et dans ce texte, Rosset reprend un passage de Pascal qui se trouve dans les trois discours sur la condition des grands, où Pascal lui-même reprend une pièce de Shakespeare, « Le soir des rois ». Et la pièce du Soir des Rois, vous savez, décrit un individu qui s'échoue sur un rivage, un frère et une sœur qui s'échouent sur le rivage, ils croient l'un et l'autre que l'autre est mort. Et ils sont pris l'un pour l'autre. Pascal reprend cette histoire au début de ses trois discours sur la condition des grands. Il dit « Imaginez un homme jeté sur le rivage, dans une île dont le roi s'est perdu, et qui ressemble à ce roi, et qui est pris comme tel, et qui est pris pour le roi par les habitants de l'île, et qui finalement se laisse aller à sa bonne fortune, et accepte, et reçoit tous les honneurs, et se fait traiter en roi. » Et Pascal reprend cette image. Et Rosset se sert de cette image pour dire qu'au fond, tous les rois sont dans la situation du type qui est pris pour un roi. Parce que être roi, quand le pouvoir est absolu ou indiscuté, le pouvoir ne repose paradoxalement que sur l'apparence du pouvoir. Il faut un sceptre pour être roi. Vous voulez être roi, prenez un sceptre. Quand le pouvoir est illégitime, il n'y a que l'apparence du pouvoir qui garantisse le pouvoir. Et donc Rosset se servait de ça à partir de sa lecture de Pascal pour montrer comment, et il se sert d'ailleurs, ça c'est tout Rosset, il se sert du chat botté. Le marquis de Carabas n'est marquis de Carabas que parce que le chat fait croire au roi que tout appartient au marquis de Carabas. Or rien n'appartient au marquis de Carabas jusqu'au moment où ça devient vrai puisque le roi y croit. Et donc, toute une réflexion sur le pouvoir illégitime, illégitime, non démocratiquement obtenu. Et alors, à partir de ces textes, du texte de Rosset, du texte de Pascal, moi je me suis demandé comment il fallait pointer la différence de statut du pouvoir entre un régime démocratique et un régime tyrannique. Or, il est très frappant d'observer, on a tourné l'émission en 2008, donc on était plein des images de Sarkozy en train de courir, de faire son footing, etc. Et c'était très frappant d'observer que quand Sarkozy apparaissait sur le perron de l'Élysée en short et en tennis, il n'y avait pas de problème aux yeux de l'opinion publique. Il n'y avait pas de problème, on avait l'impression d'avoir élu Clinton. Il n'y avait pas de problème, il y avait quelque chose de... c'est un président jeune, vif, etc. Il y avait quelque chose de... Il ne perdait pas de points dans les sondages. Parce que quand on est élu dans un pays démocratique... Eh bien, d'une certaine manière, l'apparat Même quand c'est un vieux pays monarchique comme le nôtre, même quand c'est la Ve République, et que quand on regarde la tête des présidents de la Ve République, on se dit que les temps ont changé. Mais néanmoins, un pouvoir démocratique est un pouvoir qui fait l'économie de l'apparat, ou peut faire l'économie de l'apparat. C'est particulièrement vrai quand une démocratie est jeune, ça l'est moins en France. Ça l'est moins en France. Mais le fait est que, confrontant cette image à l'image de Fidel Castro, qui était deux fois intéressante. D'abord parce que Castro était sans son treillis, qui est son sceptre à lui. Chacun son sceptre, hein. Comme Louis XIV en majesté. Si vous voulez, Castro en majesté, c'était son treillis militaire avec des ribocs qu'il avait fait peindre en noir pour qu'on ne voit pas que c'était une marque anglo-saxonne. Y a des photos qui le montrent. Enfin bon. Donc Castro, c'est le treillis. Et alors, pardonnez-moi d'être un peu trivial, mais d'abord, il tombe le treillis, et donc symboliquement, il se dépouille du pouvoir. Et le fait est qu'il a passé le pouvoir assez rapidement après. Il ne pouvait pas ne pas passer le pouvoir. Tout simplement parce qu'il ne pouvait pas ne pas endosser tout simplement la figure d'un, à la limite d'un vieux sage qu'on range dans un placard de l'histoire cubaine, mais il ne pouvait pas rester aux affaires tout en se montrant en pyjama. C'est pas possible. Dans un régime tyrannique, ça ne fonctionne pas. Ça peut pas tenir. Il est obligé de passer le pouvoir. Passer le pouvoir de façon dynastique à son frère, qui lui-même a moins de charisme que lui, tout ça est bien fait. Mais il lui fallait passer le pouvoir. Ajoutez à cela que les Cubains savaient pourquoi Castro était en pyjama. Vous savez pourquoi Castro était en pyjama? Quelle était l'opération de Castro? C'est la pose d'un anus artificiel. Or, à la dernière page des essais, il y a cette phrase que tout le monde connaît, n'est-ce pas? Si haut que soit assis un roi. D'accord? Eh oui, il n'est jamais assis que sur son cul. Et donc j'avais tout ça en tête, si vous voulez, en choisissant l'image de Castro. Et la comparaison, c'est pas une comparaison entre Sarkozy et Castro, on s'en fiche. C'est une comparaison, j'aurais pu prendre Clinton et Pinochet, si vous voulez, je m'en fous. Il s'agit de penser la différence de perception. Le rapport, au fond, entre le pouvoir et la représentation du pouvoir. Et puis, alors, après, Louis XIV, alors là, on rentre dans un autre registre, qui est celui d'une légitimité illégitime, c'est-à-dire d'une monarchie absolue, indiscutée, et pourtant parfaitement discutable en ses fondements. Voilà. Donc, c'est comme ça. Et c'est comme ça que les émissions sont construites, en fait. C'est au hasard d'une lecture que le sujet est choisi, et au hasard, ensuite, de la discussion qu'on peut avoir, la discussion préalable, et puis après, on improvise. Et le point de départ... le point de départ avec Céline, je ne sais même plus ce que c'était, tiens. Je ne sais même plus ce qu'on avait décidé. Je sais que c'est une des premières qu'on a tournées, mais je ne sais plus ce qu'on avait décidé.
C'était sur le pouvoir, avec le double corps du roi.
Il y avait le double corps du roi, ouais, on avait commencé là-dessus.
Ouais.
Ah bon? Bon, enfin, écoutez, voilà.
Oui, dans cette idée que l'image, c'est vrai que ça marche très bien, et puis que ça permet aussi d'attirer peut-être les spectateurs avec la télévision.
Téléfixe.
Ah, tout à fait, hein, tout à fait. Et vous le faites à plusieurs reprises, puisque vous évoquez donc ce type d'image. Vous citez également un petit peu plus loin sur le corps, cette comparaison qui est très intéressante entre le corps déformé d'Orlan, hein, et puis le corps de Schwarzenegger, ou le corps de certaines... culture, hein, culture du corps, qui se scarifie le corps, qui se tatoue le corps. Et là, vous mettez bien en évidence la différence qu'il y a entre ces manières de faire de son corps une œuvre d'art. On peut le faire d'une manière mortifère et narcissique. On peut le faire également d'une manière philosophique, hein, comme
alors,
une œuvre d'art.
Je vous remercie de me le dire, mais ce n'est pas moi qui le fais. C'est ma camarade Marion Richer, qui, quand on a tourné l'émission, avait 24 ans et qui remplaçait au pied levé un invité qui avait décliné la proposition une heure avant le tournage. Qui travaillait avec moi et qui venait de passer la grègue et qui après cette émission a décidé de faire sa thèse sur le corps. Ça s'est fait comme ça, c'est-à-dire que j'aime que la télévision vous reconduise à l'université, si vous voulez. J'aime que ça se passe dans ce sens-là. Voilà. Donc Marion, aujourd'hui, travaille sur Merleau-Ponty, la question du corps dans l'œuvre de Merleau-Ponty, ce qui est une question très importante, très, très, très décisive. Elle travaille sur le chiasme, la corporéité chez Merleau-Ponty. Le statut des objets, comment est-ce qu'on peut rencontrer le monde dont on fait partie. Et l'idée de faire sa thèse est venue de ça. Et il faut vraiment rendre grâce à son travail. Elle a improvisé cette émission, elle est allée intuitivement. On avait choisi ensemble les images puisqu'on travaillait ensemble, mais c'est tout ce qu'elle savait. Elle a improvisé l'émission, elle a improvisé le geste de la danseuse, elle a improvisé les bras de Schwarzenegger, tout est improvisé. Tout lui est venu naturellement. Et Ce qui est vrai, c'est qu'elle a une façon d'appréhender les choses. Alors, je parle moins bien qu'elle et je parle à sa place, là, mais elle a une façon de penser le corps, justement, qui est très intéressante, parce que c'est une façon, à l'époque d'ailleurs, assez chrétienne, en définitive. Elle parle du défi de l'incarnation. Le régime de l'incarnation, le double régime de l'incarnation, qu'on peut traduire, d'ailleurs, et c'est pour ça que bien des chrétiens aiment Merleau-Ponty, qu'on peut traduire sous la forme, chez Merleau-Ponty, du chiasme, c'est-à-dire du rapport entre le corps, la perception, l'esprit, l'objet pour un corps qui pourtant est partie prenante de l'objet qu'il désigne, etc. Bref, cette double appartenance, le régime de la double appartenance, au corps comme à l'esprit, à la religion comme à la perception, le régime de la double appartenance est un régime que Marion pratique, qu'elle connaît bien, qu'elle comprend, et donc elle a donné à cette émission un tour presque théologique. La dernière phrase, c'était le défi de l'incarnation, je me souviens. Alors, ce qu'elle dit des scarifications, j'en ai un souvenir maintenant un peu lointain. C'est la première émission qu'on a tournée, vous savez. Donc le souvenir est un peu lointain, ça fait 3-4 ans maintenant. Mais ce qu'elle dit des scarifications, je me souviens, c'est que on voyait le dos d'une femme, vraisemblablement d'ambiquara ou quelque chose comme ça. Et c'était magnifique. Oui, voilà, elle comparait les scarifications, mais vraiment le dessin régulier d'une lune, d'un ciel, de dessins géométriques irréguliers assez purs sur le dos d'une femme, dans une tribu, j'ai oublié le nom, enfin, je ne suis pas sûr que ce soit les Nambiquara, et elle comparait ça aux veines saillantes des bras de Schwarzenegger. Et c'est bien vu. C'est bien vu. C'est bien vu, parce que dans un cas, il y a quelque chose qui est de l'ordre de orphique, un art de trouver sa place au sein du monde, au sein d'un monde cosmologique. Et dans l'autre, il y a un culte de la performance, le culte prométhéen de la performance, qui se mesure à la façon dont les veines saillent. Et de sorte que la veine saillante, je serais bien en peine de vous en faire une démonstration, la veine saillante a ceci, la veine saillante a quelque chose de prométhéen, alors que les scarifications ont quelque chose d'orphique. C'est Orphée, on s'inscrit dans la nature, on est dans le registre d'une harmonie, on n'est plus dans le registre d'une performance. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'implicitement, et ça elle ne le savait pas, son propos est antidémocratique. Parce que l'orphisme n'est pas démocratique. La démocratie a inventé précisément la performance, le dépassement de soi. Les Jeux Olympiques aujourd'hui, qui sont le modèle de la démocratie, qui sont vraiment l'exemple même d'une démocratie même mondiale d'ailleurs, les Jeux Olympiques culminent dans le goût de la performance. On dit que l'important c'est de participer, tu parles. Il s'agit de se dépasser soi-même et surtout de dépasser l'autre. La démocratie c'est la concurrence. En pensant les choses en termes orphiques, en faisant valoir l'orphisme de ce personnage, elle faisait valoir un régime où au fond la place de chacun était si connue qu'on ne la discutait pas et qu'il ne s'agissait pas de changer de place. Il n'y avait pas d'ascenseur social. Si vous voulez, on était dans une autre problématique. Mais c'est marrant comme, vous voyez, un sujet est une pelote géniale. Alors, ce qui est frustrant aussi dans les émissions, c'est qu'on doit se cantonner aux images. D'abord, je suis comptable du fait que toutes les 5 minutes, à peu près, on change d'image. On se sert des images comme d'un support fixe, donc il y a des contre-marques hein, par terre. On sait où on doit se mettre par rapport aux images. Pour que l'image apparaisse, pour qu'il puisse y avoir un plan. Parce que comme on ne peut pas trafiquer justement l'image, comme on ne peut pas revenir dessus, comme il n'y a pas de contre-champ, qu'il n'y a pas de montage, il faut que l'image soit bonne sur dès la première prise. Donc il y a 2-3 repères comme ça. Mais moi j'aimerais bien, mais peut-être qu'on finira par y arriver, hein, j'aimerais bien digresser davantage en fait. Je pense qu'on peut digresser sans dire de bêtises. C'est la démarche de l'ivrogne dans au-dessous du volcan. Il titube, il ne sait pas où il va, mais enfin il va quelque part et il marche quand même d'une certaine manière, si vous voulez. Donc on peut digresser sans dire des bêtises. Mais j'ai pas encore trouvé la formule qui permet, à moins de mettre en abîme une émission sur la digression elle-même. Mais j'ai pas trouvé la formule qui permette de le faire encore.
Et justement, vous avez des images, mais vous avez aussi les romans. Vous êtes un grand lecteur de romans. Souvent, vous citez Romain Gary, par exemple, ou Les Misérables, et puis ça marche très bien. On voit comment on pourra incarner justement des concepts philosophiques. L'appel à l'image est excellent, c'est vraiment un stimulant. Mais également les personnages de romans.
Mais parce qu'en fait, le concept n'est pas le but. Parce que le concept, comme la littérature, sont les outils, je mets le mot entre guillemets. Hein, mais le but de la philosophie, si but il y a, c'est quoi le but de la philosophie? C'est le réel. C'est le réel. c'est-à-dire ce que nous savons, mais que nous ne voulons pas savoir. Voilà. Si la philosophie est une maïeutique, s'il s'agit d'accoucher de soi, c'est parce que nous savons tout, et que notre problème n'est pas ce que nous ignorons, qu'on peut toujours apprendre, on a toujours la liberté d'apprendre, le problème n'est pas ce que nous ignorons. Le problème, c'est ce que nous savons, mais que nous ne voulons pas savoir. Et toutes les illusions, les mensonges, les idéologies, les violences, les certitudes, les dogmes qui naissent de ce refus de savoir ce que nous savons. Combien de dieux sont nés du savoir qu'on naissait par hasard dans un monde qui s'en fout ? Faire de la philosophie, c'est faire la généalogie de nos certitudes à partir d'un savoir que l'humain n'assume pas. Et si maïotique il y a, si accouchement de soi il y a, c'est de faire accoucher les gens de ce qu'ils savent mais ne veulent pas savoir. C'est beaucoup plus difficile de savoir ce qu'on sait que de savoir ce qu'on ignore. Savoir ce qu'on ignore, on peut toujours l'apprendre. Savoir ce qu'on sait, il faut se vaincre soi-même. Il faut triompher de soi. Il faut penser contre soi-même. Il faut récuser le confort. Il faut prendre des risques. Savoir ce qu'on sait, c'est très compliqué, c'est très difficile. Et on passe notre vie à ne pas savoir ce qu'on sait, à vouloir ne pas savoir ce qu'on sait. Et quand on prend la mesure de toutes les illusions, de tous les rêves, de tout ce qui nous sépare du réel, de tout ce qu'on interpose entre nous et le monde pour supporter d'y vivre, ça va du fait de subordonner l'intérêt qu'on porte aux choses, aux besoins qu'on en a, aux préjugés, en passant par le fanatisme, les idéologies, les religions, ce que vous voulez. Tout ce qu'on interpose entre soi et le monde nous vient aussi de la conscience sourde que nous savons, mais que nous ne voulons pas savoir. Et faire de la philosophie, c'est inviter les gens à savoir ce qu'ils savent. Donc c'est assez déplaisant, parfois, comme exercice. Hein. On demande si ça aide à mieux vivre sa vie, etc. Je suis pas sûr. Il n'est pas dit que la réalité qui dérange soit préférable à l'illusion qui réconforte. Si vous voulez, j'en sais rien. J'ai pas la réponse. En ce qui me concerne, j'ai pas le choix, mais vous, peut-être, c'est pas dit. Et pourquoi je vous dis ça ? Pourquoi je vous disais ça ?
Ben, je crois
où est-ce qu'on en était ? C'était quoi la question ? J'ai perdu votre question en cours de réponse.
La question, c'est...
Pardon ? Voilà. Donc, l'objet de la philosophie, tout ça pour vous dire que... Merci. L'objet de la philosophie, c'est le réel. C'est le réel. Dans sa nudité, dans sa froideur, dans son inhumanité. C'est ce monde qui n'est pas là pour nous faire plaisir. Et qu'il faut aimer quand même. Parce que quand on l'aime pas, on est malheureux deux fois. Alors, les romans, les concepts, les essais ne sont au fond que les bras armés et pacifiques d'une même entreprise, qui est de connaissance du réel. Y a un passage de Bergson dans Le Rire où il dit « Si nous pouvions entrer en communication immédiate avec les choses et avec nous-mêmes, je crois bien que l'art serait inutile, car alors nous serions tous artistes, tous poètes, tous musiciens. » Nos yeux, aidés de notre mémoire, découperaient dans l'espace des fragments de statues aussi beaux que ceux de la statuaire antique. Et qu'est-ce qu'il dit en disant ça ? En fait, il fait référence à tous ceux qui, comme Swann, dans La recherche du temps perdu, à chaque fois qu'il voit quelqu'un, voit un tableau. Celui qui voit un tableau, quand il voit quelqu'un, ne s'éloigne pas du monde, ne s'éloigne pas du réel. Au contraire, il saisit le réel dans sa quintessence, dans sa finesse, dans sa densité, non pas dans sa particularité, mais dans sa singularité, dans sa fécondité. Il s'agit pas de... On ne s'éloigne pas du monde quand on le traduit en termes littéraires. Au contraire, la littérature, c'est comme... Si vous voulez, on dit qu'un peu d'abstraction nous éloigne du monde et que beaucoup nous y ramène. Un peu de littérature peut nous distraire du réel. Beaucoup nous y reconduit nécessairement. Et l'objet, c'est ça. L'objet, c'est le réel. Et la meilleure façon de donner à percevoir le réel, c'est comme la métaphore, c'est d'opérer des rapprochements. On serre l'objet en opérant des rapprochements, un peu comme un vautour qui tourne en faisant des cercles concentriques de plus en plus serrés autour du cadavre qui n'est pas encore mort, qui bouge encore, si vous voulez. Il faut serrer l'objet à coups de rapprochements, à coups de comparaisons, de métaphores, affiner le regard, aller vers la simplicité autant que possible, se rapprocher d'elle, c'est-à-dire vers la réalité, vers cet art difficile de faire simple. Donc, la littérature a de ce point de vue, me semble-t-il, si on peut distinguer les deux, ce qui est compliqué. Bon, disons que Kant, c'est pas Romain Gary. La littérature a peut-être une vitesse d'exécution supérieure à la philosophie, dans ces cas-là. Je connais bien des philosophes dont le travail culmine vers la nostalgie de n'être pas poète. Clément Rosset, le premier d'entre eux, par exemple. Bergson aussi. Et c'est pas un hasard, d'ailleurs, si Bergson avait le prix Nobel de littérature. Enfin, il n'y a pas de prix Nobel de philosophie. Parfois, peut-être, la littérature, la poésie, donne à la fois pédagogiquement... Ben, c'est quand même mieux, parce que pédagogiquement, le support d'une narration, c'est comme le support d'une image. On est plus familier. C'est plus facile de faire passer quelque chose à partir de la matière d'un récit. Et aussi, un récit explore ce que le monde peut avoir de profondément singulier et amoral. Faire de la littérature, lire Romain Gary, par exemple, c'est découvrir ce monde qui est le nôtre. Où il n'y a pas de phénomènes moraux, il n'y a qu'une interprétation morale des phénomènes. Donc c'est découvrir le monde aussi dans sa dureté, dans sa nudité. L'éducation européenne, par exemple. C'est génial, l'éducation européenne. Il l'écrivait la nuit avec deux doigts. Le matin, il prenait son avion de la Royal Air Force et il allait presque mourir. Il ne savait pas s'il allait vivre le lendemain ou pas. Et dans la nuit, il écrivait, il avait 26 ans, son livre qui se passe dans une forêt polonaise où des jeunes résistants polonais se font massacrer par les nazis. En même temps, c'est presque un reportage sur le pays de son enfance dont il ne connaît rien et qu'il imagine avec ses deux doigts la nuit en écrivant avant de mourir, peut-être, le lendemain. On touche du doigt, des deux doigts, quelque chose que peu de philosophes savent saisir, quoi, avec la même acuité.
Oui, tout à fait. Je crois qu'il y a ce désir de concret chez vous, de réalité, hein, parce que c'est la même chose, concret en latin, cum crescere, croître avec. Hein. Oui. Et en même temps, il y a toute la mise en scène propre à ces émissions de télévision qui sont filmées. Je crois qu'il y a une très très belle séquence avec Daniel Mesguich, hein, qui met en évidence, alors, un sentiment qu'on n'avait pas le même avis justement que Daniel Mesguich sur la scène comme théâtre, peut-être plutôt, je dirais, du côté de Pascal, hein, le monde est un théâtre, ou de Calderon, hein, c'est-à-dire que la vie est un songe, et que Daniel Mesguich en permanence essaie de vous dire mais non, voilà, le théâtre, lui, c'est quelque chose qui va nous mettre dans la fiction, on est dans la fiction, et en même temps il va nous faire voir la réalité. Et je crois qu'il a un mot qui est très beau, que vous auriez pu évoquer tout à l'heure. Il relie la fameuse phrase de Shakespeare dans Hamlet, hein, to be or not to be the question, et dit il faut mettre la virgule à un autre endroit, c'est to be or not. C'est-à-dire que là est la vraie question, hein, ce que vous disiez en étant immanentiste.
Merci de tant d'attention.
J'ai vu avec beaucoup de plaisir.
Daniel, alors effectivement, mais juste pour l'anecdote, pour cette émission, puisque vous parlez de cette émission, je commence l'émission donc, et donc je suis là à lire le monologue de Jacques le Mélancolique, dans Comme il vous plaira, le monde entier est une scène de théâtre et nous n'en sommes que les acteurs, nous faisons nos entrées, nos sorties, etc. etc. C'est les sept âges de la vie. Et phrase archi connue, hein, le monde entier est une scène de théâtre. Bon. Et donc je lis ça, et il se trouve qu'au moment où je lis, on n'avait pas fait exprès, le tournage commence, le tournage de l'émission, donc on ne peut pas s'arrêter, hein, on ne peut pas recommencer, on continue, c'est comme ça, ce segment de temps sera celui-là, quoi qu'il arrive. L'espace concret là est un espace fictif d'une certaine manière, mais ce sera celui-là. Et ça coïncidait avec la sortie des classes. Et donc, il y a eu une sortie d'école. Et je suis là, en train de lire « Le monde entier est une scène de théâtre ». Et tout à coup, j'entends un gamin qui dit « Voilà, c'est une émission de télé ». Et alors, je me retourne, je dis « Ouais, c'est une émission de télé ». Et le deuxième, il dit « Voilà, putain de sa mère, c'est une émission avec Shakespeare ». Et vous pouvez pas savoir à quel point j'étais heureux. Et alors je me disais, bon, soit il a vu la couverture du truc, soit il a reconnu le texte. J'ai voulu penser qu'il avait reconnu le texte. Et alors ça, du coup, ça nous a mis de bonne humeur pour l'émission entière. Enfin, Daniel, qui m'attendait à l'intérieur, ne savait pas justement que j'avais vécu ça. Oui, non, mais c'était bien, c'était vraiment... En tout cas, c'était vraiment, alors là, c'était comme une bénédiction du hasard, quoi. Voilà, putain de sa mère, c'est une émission avec Shakespeare. C'est génial, je veux dire. Bon, alors, du coup, le... on me voit répondre au tout début de l'émission. On dit, oui, c'est une émission de télé. Et après, au son, il a enlevé le voilà, putain de sa mère, etc., etc., parce que je devais lire le texte. C'est une discussion qu'on a eue déjà. C'est une discussion qu'on a eue déjà, je sais. Je suis d'accord avec vous. Mais il n'avait pas de micro, on ne l'entendait pas bien, etc., etc. Il fallait le monter très fort pour l'entendre, et à ce moment-là, on sacrifiait le texte. Or, toute l'émission reposait sur les premières phrases du texte. Donc, il a fallu trancher. Et on a tranché pour Shakespeare. Mais c'est vrai que Daniel, lui, en praticien, quoi, en homme de théâtre. Moi, j'ai toujours été fasciné par l'hypothèse cartésienne selon laquelle je n'ai pas les moyens de prouver l'existence du monde qui m'entoure. Je ne suis pas cartésien pour cette raison-là. C'est-à-dire que le sentiment de mon existence ne me garantit pas l'existence du monde qui m'entoure. Et cet homme qui veut aller d'idée claire et distincte en idée claire et distincte conclut les méditations métaphysiques sur l'existence probable du monde qui l'entoure. Et bon, moi j'ai bon. Mais de cette entreprise-là est né tout le théâtre baroque, quoi. Calderon, alors Shakespeare était né avant, mais Corneille, l'illusion comique, est née tout entière de cette idée. Je n'ai pas les moyens de vous prouver, je n'ai pas les moyens de vous prouver que vous n'êtes pas des acteurs en train de me faire croire que je suis moi-même en situation de conférencier et prof de philo, si vous voulez. Je peux pas. On peut pas. Pas. Tout simplement parce que les impressions que le monde dépose en moi sont filtrées par mon cerveau. Et donc ce que je crois toucher, il se peut que je ne fasse que croire le toucher, que le croire toucher, enfin, vous voyez. Donc, à partir de là, avec Daniel, je lui dis, moi j'assume la position du... on ne sait pas, quoi. Je dis, si ça se trouve, à un moment, je lui dis, si ça se trouve, on est en train de tourner une émission. Hein. Si ça se trouve, on n'est pas en train de discuter. Si ça se trouve, c'est une mise en scène, tout ça, etc. Et il aime bien ces jeux de l'esprit, mais il est beaucoup plus sérieux que moi. Et il pratique le théâtre. Et il sait que quand on monte sur une scène, c'est pas comme quand on est dans le public. Et que c'est pas la même chose. Et que jouer au théâtre, c'est un métier. Et que, alors moi, je dis, est-ce que Jacques Vergès est acteur? Il me dit non, Vergès n'est pas acteur. Vergès est avocat qui défend des causes perdues, et pas forcément bien d'ailleurs. Je veux dire, il avait comme ça quelque chose de démoralisant pour l'adolescent baroque qui voulait penser que tout ça n'était peut-être qu'un songe. Et c'était très sympa pour ça. Le tournage en lui-même était très... c'est un excellent souvenir. Et d'ailleurs, c'est bizarre parce que c'est une émission dont... à part ce que je vous en dis là, je ne sais plus ce qui s'est dit dedans. Le contenu de l'émission est passé derrière le plaisir que j'ai eu à la
tournée. Je crois qu'il mettait en évidence également que le théâtre est philosophique, que le théâtre se pense en tant que théâtre.
Et to be or not. Alors ça je m'en souviens en revanche.
Ah oui, c'est extraordinaire.
Et Daniel, il y a un truc extraordinaire. La fameuse phrase d'Hamlet, hein, « To be or not to be, that is the question ». Et Daniel dit non, c'est mal traduit, « être ou ne pas être ». Là est la question. C'est « to be or not, to be, that is the question ». En d'autres termes, « être ou pas, c'est être la question ». Ça change tout. Ça change tout. Il remplace l'alternative par l'étonnement. Il remplace l'alternative par l'émerveillement. Il remplace l'alternative, est-ce que je vis, est-ce que je meurs, est-ce que j'ai la trouille de vivre, est-ce que j'ai la trouille de mourir, qu'est-ce qui me fait le plus peur, etc. Le truc, bon. Par le questionnement, par l'émerveillement. Par l'émerveillement face au fait que le monde soit ce qu'il est. Et c'est vraiment fort, ça. Ça, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment, vraiment gonflé, fort et assez juste. Il le tient d'Orson Welles. Voilà. C'est Orson Welles qui le lui a appris. Donc c'est de lui qu'il le tient. Est-ce qu'il le tient en personne d'Orson Welles? Je ne sais pas. Mais le fait est qu'il dit, c'est comme ça que Orson Welles lisait Hamlet. Voilà. C'est beau quand même ça. Hein? To be or not, to be, that is the question. Être ou pas, c'est être la question. Parce que non-être, mais être, ça oui, ça c'est une question. Ça.
Bah, si vous voulez bien, ce sera le mot de la fin.
Ah, bon. D'accord. Merci de vos questions, en tout cas, merci.
Merci beaucoup.